C'est au chapitre 11 de l'Évangile selon Matthieu, les versets 20 à 33 que je lirai. Mais avant donc, je vous invite à prier. Pour que ces mots de la Bible résonnent aujourd'hui, 2000 ans après avoir été prononcés comme des paroles vivantes, donne-nous Seigneur ton esprit. Insuffle ces paroles, prononce-les toi-même, donne leur sens pour aujourd'hui et pour chacun d'entre nous. Amen. Alors, Jésus se met à faire des reproches aux villes où il a accompli la plupart de ses miracles. En effet, les habitants n'ont pas changé de vie. Jésus leur dit, « Quel malheur pour toi, ville de Chorazin ! Quel malheur pour toi, ville de Bethsaïda ! C'est chez vous que Dieu a fait des choses extraordinaires et non à Tyr et Sidon. » S'il avait fait ces choses-là, là-bas, leurs habitants auraient changé leur vie depuis longtemps. Ils l'auraient montré en prenant des sacs comme habits et en mettant de la cendre sur leur corps. Oui, je vous le dis, ce jour-là, Dieu jugera les gens, où Dieu jugera les gens, il sera moins sévère avec les habitants de Tyr et de Sidon qu'avec vous. Et toi, ville de Capernaum, est-ce que Dieu te fera monter jusqu'au ciel? Au contraire, il te fera descendre chez les morts. C'est chez toi que Dieu a fait de grandes choses et non à Sodome. S'il avait fait ces choses-là à Sodome, cette ville existerait encore aujourd'hui. Oui, je vous le dis, le jour où Dieu jugera les gens, il sera moins sévère avec les habitants de Sodome qu'avec les tiens. Peu de temps après, Jésus dit, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te dis merci. En effet, ce que tu as caché aux sages et aux intelligents, et aux savants, tu l'as fait connaître aux petits. Oui, Père, tu l'as bien voulu. Mon Père m'a tout donné. Personne ne connaît le Fils, sauf le Père. Personne ne connaît le Père, sauf le Fils. Mais le Fils veut montrer le Père à d'autres pour qu'ils le connaissent aussi. Venez auprès de moi, vous tous qui portez des charges très lourdes et qui êtes fatigués. Et moi, je vous donnerai le repos. Je ne cherche pas à vous dominer. Prenez donc vous aussi la charge que je vous propose et devenez mes disciples. Ainsi vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, la charge que je mettrai sur vous est facile à porter. Ce que je vous donne à porter est léger. Dimanche dernier, pas ici au culte, mais à la télévision et dans tous les autres médias, nous avons beaucoup parlé de nos villes. Et je pense pas que ce soit parce que le texte de ce jour était celui-là aujourd'hui. Mais la plupart de nos grandes cités, vous le savez, élisaient de nombreux conseillers municipaux. On a beaucoup parlé de politique de la ville, mais il me semble qu'on n'a pas assez développé, analysé, expliqué le jeu des solidarités qui structurent nos villes et villages et qui en fait leur personnalité. J'ai bien employé le mot de personnalité pour parler des villes et ce n'est pas une erreur. On hésite à le faire aujourd'hui où nous sommes devenus tellement individualistes et où nous avons l'habitude de choisir toutes nos solidarités et d'en changer régulièrement. Ainsi, on peut faire partie d'une association ou d'une église que l'on quitte dès le premier désaccord avec d'autres membres pour se rattacher à une autre. On change aussi de ville et de village plusieurs fois dans sa vie, et j'en sais quelque chose, au point qu'il devient difficile de dire « je suis d'ici » ou « je suis de là ». On voit même des candidats à des élections locales qui changent de ville juste pour augmenter leur chance d'être élus. Ils choisissent d'être solidaires avec telle ville plutôt que telle autre parce qu'ils sentent qu'elle est plutôt de leur bord. On voit des équipes de foot qui ne comportent plus un seul joueur originaire de la ville dont elles défendent les couleurs. Quelquefois même pas du même pays. Pour analyser ce phénomène, le philosophe et sociologue Zygmunt Bauman aime décrire notre société comme une société liquide dans laquelle tout est tellement mouvant que l'on ne sait plus trop à quoi ni à qui se raccrocher ni sur quoi se fonder. J'aime bien cette idée de société liquide pour décrire notre monde tel que Bauman le fait. Et pourtant, malgré toutes ces mutations, nos villes gardent une personnalité. Générargues n'est pas bagarre. C'est comme ça, hein, c'est pas bagarre. Anduze n'est pas Lézan, ni Alès. L'histoire a forgé ces identités collectives qui ont une réalité, on ne peut pas le nier. Une ville n'est pas qu'une somme d'individus, elle a sa propre identité. Dans un ouvrage sur la théologie de la ville, Jacques Ellul allait jusqu'à écrire que la ville est un être particulier, indépendant de ceux qui l'habitent. C'était aussi ce que, d'une autre manière, on croyait dans les temps bibliques, et Jésus ne déroge pas à la règle au point qu'il s'adresse à des villes comme à des personnes. Dans notre texte, ce sont des villes en tant que telles qui sont menacées de châtiment et qui sont appelées à la repentance, et pas des individus. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, et toi, Capernaum, etc. Ce faisant, Jésus s'inscrit dans le prolongement de l'Ancien Testament, où l'on peut lire de nombreux récits où, dans lesquels les villes sont considérées comme des entités en soi, Babel, Jéricho, Ninive et bien d'autres. Les villes ne sont pas des communautés auxquelles on adhère comme on adhère à une association ou à une église. Ce n'est pas un accord d'idées qui rassemble les gens, mais le simple fait d'habiter là, quelles qu'en soient les raisons. Et cela génère des formes de solidarité bien spécifiques, des ambiances bien spécifiques. Et ainsi, on est entraîné dans des solidarités, quelquefois malgré soi hein, d'ailleurs, dans des solidarités avec les habitants de notre cité, qu'on le veuille ou non. C'est comme ça. On se sent solidaire quand on habite à un endroit, en tout cas, si pas tout de suite, au bout de quelque temps. Dans ce passage de la Bible, Jésus souligne le fait que ceux qui auraient dû le recevoir ne l'ont pas reçu. Avant, il parle des hommes de religion qui ne l'ont pas reçu. Les villes de Galilée. Puis les sages et les savants. Et que ceux qui le reçoivent, les collecteurs d'impôts à la solde des Romains, les prostituées, etc., ne sont pas ceux qui avaient des prédispositions pour cela. Jésus constate que ce problème, donc, n'est pas qu'un problème individuel, mais qu'il est collectif. Les villes qui auraient dû le recevoir ne l'ont pas fait. Chorazin, Bethsaïda, Capernaum sont toutes des villes de Galilée où Jésus était connu, où il avait prêché, fait des miracles, et il n'hésite pas à leur opposer des villes étrangères où l'on pratiquait même d'autres religions. Ils n'étaient même pas juifs. Tyr, Sidon, en annonçant que ces villes étaient plus ouvertes à la grâce que les villes de Palestine. On ne peut pas ne pas penser ici à l'exemple de Ninive, ville païenne qui se convertit suite à la prédication de Jonas. Ce texte de Matthieu fourmille d'ailleurs de références à cet épisode de Ninive. Quand je lis ce passage de l'Écriture, je ne peux pas m'empêcher de penser à ces villes et villages de notre région, conscients et fiers de leur protestantisme. Le maire d'une des communes de la paroisse, je ne vais pas dire laquelle quand même, mais bon, peut-être vous le devinerez, me présentant son village, la première fois que je le rencontrais, me définissait très fièrement celui-ci comme un village protestant. Et effectivement, quand on arrive d'ailleurs, on perçoit dans nos villages cette influence de l'histoire protestante. Bien sûr, et de la présence protestante. Bien sûr, il y a nos temples qui trônent au milieu de nos cités, témoignant de cette identité, mais il y a aussi un certain nombre de valeurs auxquelles on tient et que l'on qualifie, à tort ou à raison d'ailleurs, de protestantes. On aime bien parler notre autonomie, la démocratie, l'humanisme, la résistance aux influences extérieures, et j'en passe. Et tout naturellement, bien sûr, beaucoup de nos responsables, de nos élus, sont aussi protestants. Le nombre de croix huguenotes que l'on croise dans la rue pourrait laisser penser à l'étranger de passage que le dimanche, les temples sont pleins. Mais comme me fait souvent remarquer le président de mon conseil presbytéral, il y a plus de croix huguenotes dans Super-U que dans le temple d'Anduze. Et c'est vrai. Mais cette identité collective protestante est bien là. Et elle n'est pas à rejeter. Nous n'avons pas à rejeter cette identité. Cette identité qui fait nos villages. Nous n'avons à rejeter l'identité d'aucun de nos villages. Pas plus que l'identité galiléenne de Capernaum ou de Bethsaïda. Ce que nous dit Matthieu dans ce texte, c'est tout simplement que cette identité ne suffit pas à fonder ou à définir notre relation à Dieu et que si nous nous en arrêtons là, eh bien nous passerons à côté de l'essentiel. Et il pointe le fait que la tentation de ne pas se laisser interpeller par le Christ est justement du côté de ceux qui revendiquent une identité chrétienne forte et qui pensent n'avoir besoin de rien. Ils ont besoin de rien de plus. On est protestants depuis des siècles. Qu'est-ce que vous voulez nous embêter encore avec l'Évangile ? C'est un discours qu'on entend en filigrane dans beaucoup de rencontres. Mais Jésus ne dit pas que c'est automatique non plus. La preuve, c'est que vous êtes là. Il y a la vie. Protégé donc dans sa cité, entouré de ceux qui partagent cette même identité collective, il peut être difficile de se remettre en question, d'entendre les appels déstabilisants de l'Évangile. Nos communautés humaines, quand elles ont une identité affirmée, peuvent être de vrais remparts qui protègent des autres. On est bien entre soi, mais qui protègent aussi de Dieu, quelquefois. C'était le cas de Babel, Ninive et Jéricho. La sécurité que peuvent donner nos cités peut nous dispenser de nous tourner vers Dieu. En ce sens, l'épisode que nous venons de vivre, l'épisode de la Covid, aura peut-être un effet salutaire en nous rappelant que nous ne sommes nulle part en sécurité, puisque cela nous a rappelé ce que nous savons quand même, un peu, c'est que nous devons tous mourir un jour, et que la sécurité absolue, elle n'existe pas. Mais la réponse qu'apporte Jésus est tout autre. À la sécurité que représentent nos villes, il oppose non pas une autre sécurité, en disant « moi je vais faire mieux, je vais vous sécuriser mieux que nos villes ». À la sécurité de nos villes, il oppose son repos. Ce repos qu'il nous propose à la fin du texte n'est pas un refuge, une fuite, ni une mise en sécurité derrière les murs d'une ville. Il n'est pas un lieu, mais un temps, un moment. Il est ce temps où l'on reçoit des forces nouvelles pour mieux affronter la réalité, pour mieux être présent dans le monde et le changer, en y témoignant de l'Évangile. Et d'ailleurs, le mot grec employé par Matthieu ici contient cette idée de se refaire des forces. Bien sûr, il est normal que nos élus garantissent la sécurité dans nos villes, sécurité physique et économique, mais aussi sécurité psychologique. On sait, par exemple, que l'arrivée massive d'étrangers peut mettre en insécurité si on la gère mal. Bref, il est du devoir de nos élus de renforcer nos identités de ville ou de village. Mais cela n'a rien à voir avec l'Évangile ni avec le rôle que l'Église doit jouer dans nos villes. Notre mission est dans le prolongement de celle de Jésus, d'inviter à ce repos qui permet de se refaire des forces pour mieux vivre avec les autres, sans avoir besoin de s'épuiser dans la recherche d'hypothétiques refuges. Si ce matin, nous nous retrouvons entre chrétiens protestants, pas du même village, mais quand même, si nous nous retrouvons entre nous, ce n'est pas pour nous protéger des autres, mais pour renouveler nos forces, pour mieux aller à leur rencontre. C'est cela que Jésus propose, en réponse à cette recherche de sécurité, de bien-être ensemble que nous avons dans chacune de nos villes, chacun de nos villages. Amen. Et je vous invite à chanter le chant.